Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris, livre qui est toujours disponible en librairie. Donc nous en sommes au chapitre 4 de cet ouvrage, le langage symbolique. Lors de la dernière émission, nous avions opposé la pensée close et la pensée ouverte à partir d'une opposition que fait Bergson entre ces deux notions. Et nous allons enchaîner en voyant qu'il y a deux façons d'envisager la morale, les normes qui structurent les sociétés. Il y a sans doute deux morales, une morale de la pression sociale qui est héritée et transmise par l'intermédiaire de la Kultur allemande, c'est-à-dire de l'héritage culturel. Cette morale vise à l'insertion de l'individu dans le groupe et conditionne l'individu. Le symbolisme en est assez simple, ou est devenu simple, ayant été simplifié par les éducateurs, les appareils divers. Hein. Et puis il y a une morale de l'aspiration individuelle ou personnelle qui ou bien propose de nouvelles valeurs ou une nouvelle façon de voir les choses, ou bien retrouve ce qu'il y avait de surprenant, de dérangeant ou de scandaleux dans l'ancienne morale avant qu'elle ait fini par se figer en se socialisant ou en se rationalisant. Ce serait comme des braises à moitié éteintes sur lesquelles on souffle pour en faire à nouveau rejaillir la flamme. Et on comprend pourquoi alors il faut, pour réveiller la pensée, un symbolisme qui surprenne. Bergson a bien montré cela dans son livre fondamental « Les deux sources de la morale et de la religion ». Alors il revient au réexamen de la culture, que l'on appelle la Bildung, la formation de soi par soi, d'aller dans cette voie, d'envisager justement de nouveaux scénarios très différents de ceux qui nous ont été inculqués. Alors, de tout temps, au sein des sociétés, il y a eu des marginaux, des déviants, des anomiques, dont la fonction précisément, je prends anomique au sens de Durkheim, hein, dont la fonction précisément était de déranger et de faire progresser la compréhension mentale des choses par élargissement de l'horizon. Par exemple, de Diogène le Cynique au neveu de Rameau de Diderot, hein, on voit que le discours subversif de l'individu original accompagne toujours le discours figé du conformiste. Il y a là une bipolarité importante. En Chine, par exemple, à côté de la morale sociale de Confucius, il y a le discours, je dirais, libertaire, individualiste et quasi anarchisant de Lao Tzu, le fondateur du taoïsme. Les deux pôles s'opposent, un peu comme la pensée close et la pensée ouverte, ou bien la pression du groupe qui contraint et l'aspiration de l'âme qui s'ouvre. Donc quand la culture d'une société se fige et se sclérose sous forme de rites, de répétitions routinières, de gestes mécaniques, d'une idéologie de catéchisme, etc., il est nécessaire qu'une autre pensée apparaisse dans le sein de cette société pour la contester. Et ce qu'on appelle contre-culture, par certains aspects, a aussi ce rôle. À l'intérieur de chaque culture, il y a tout un cortège ou une théorie de ces contestataires qui la font avancer. Pensons par exemple à la théorie des exceptions, un livre de Philippe Solers. Il faut prendre théorie au sens grec, hein, de cortège. Hein. Voilà. Par exemple, tenez, Antigone. Eh bien, Antigone, elle s'oppose à Créon. Elle s'oppose aux valeurs de haine, d'exclusion. Hein, et elle, face à ces valeurs, elle propose des valeurs d'amour et de partage. Voici ce qu'elle dit. « Je suis né pour partager l'amour et non pas pour partager la haine. » Vous voyez ? La conscience individuelle va se dresser face à la loi de l'État, le non-écrit, les lois non-écrites, nomoiagraphoi, hein, les lois non-écrites, hein, s'opposent à l'écrit, aux lois écrites. Pareillement, bien plus tard, Antigone c'était dans la fiction, dans la réalité, Jésus, hein, si on admet son existence d'ailleurs, hein, Jésus n'a rien écrit, sauf face à la femme adultère, des choses incompréhensibles, sur du sable et à la merci du premier vent. Hein. Alors le symbole ici est évident, si ces signes kabbalistiques tracés par Jésus vont être effacés par le premier vent, eh bien tout ce qui est fixé, tout ce qui est écrit, est déjà mort. Hein. L'important est ailleurs, vous voyez. Donc, il y a deux pôles, un pôle du clos et un pôle de l'ouvert. Hein. Et je dirais, dans l'histoire des hommes, il y a toujours la lutte du clos et de l'ouvert. Hein. Et cette lutte est tragique, elle génère un tragique historique. Par exemple, la logique ordinaire veut que l'on réponde ou que l'on riposte quand on est agressé. Hein. Mais une logique plus ouverte ou supérieure maintiendra la question pendante, en quelque sorte. On ne supprime pas le mal en ajoutant du mal au mal. Ainsi, Socrate disait « il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre ». Vous voyez, Beltion, Adikaistai et Adikein. Hein. Et ou bien il disait aussi « nul n'est méchant volontairement, hein, nul ne fait le mal volontairement ». Et Jésus dit de la même façon qu'il ne faut pas résister aux méchants. Vous voyez, dans la Vulgate, le non resistere malo, hein, voilà. Mais antisthenai toponero, il me semble, en grec. Hein. Donc, prenez le sermon sur la montagne, par exemple. Hein. Il montre bien l'affrontement de la morale close et de la morale ouverte. D'un côté, nous avons ce qui est transmis et appris. On vous a dit que, hein, dit Jésus, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, par exemple. Hein. Et de l'autre côté, ce qu'il faut découvrir, ce qui est nouveau. Et moi, je vous dis que, par exemple, ne pas résister aux méchants. Il s'agit donc de déstabiliser le logos ou la logique. Hein. Alors bien sûr, les paroles de ce discours sur la montagne doivent être interprétées selon l'esprit et non selon la lettre. Par exemple, « heureux les pauvres en esprit » signifie « heureux ceux qui ont un esprit de pauvre, y compris les riches hein. ». C'est de l'esprit de pauvreté qu'il s'agit ici. Sinon, comment comprendre qu'il faille donner aux pauvres, quitte à les rendre riches, et faire l'éloge de la pauvreté, s'il s'agissait d'une pauvreté de fait hein. Bon, il faut bien distinguer vérité de fait et vérité symbolique, spirituelle. Puisque je le répète, dans ces séries d'émissions, là, actuellement, nous analysons le langage symbolique. Hein. Le langage symbolique indique des directions de pensée. En effet, il y a des pauvres de fait qui sont riches en esprit, et des riches de fait qui sont pauvres en eux-mêmes, c'est-à-dire indépendants de leur richesse. Mais le tragique historique, c'est que la promotion de ces nouvelles valeurs, les valeurs de la pensée ouverte face à la pensée close, valeurs plus larges que les anciennes, nécessite la destruction de leurs porteurs. Socrate d'abord, puis Jésus, Antigone dans la fiction aussi, ont payé de leur vie le triomphe de cette nouvelle pensée qu'ils apportaient. De leur temps, les esprits n'étaient pas assez éclairés pour la saisir, cette nouvelle pensée. Il a fallu qu'ils meurent pour qu'ils soient compris. Par exemple, l'évangile de Jean dit que la lumière brillait dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l'ont pas. Alors là, je ne sais pas comment on traduit le katélabène grec, hein. Ça peut signifier « ne l'ont pas reçu », c'est-à-dire « ne l'ont pas accueilli ». Ça peut signifier aussi « ne l'ont pas arrêté », c'est-à-dire « ne l'ont pas intercepté ». Donc quelque chose de tout à fait différent. Prenons une traduction pour ce katélabène par le mot « saisir ». Les ténèbres ne l'ont pas saisi, qu'on peut comprendre, ne l'ont pas comprise intellectuellement, mais ne l'ont pas arrêté, ne l'ont pas empêché de progresser. Vous voyez, c'est une ambiguïté admirable là et intraduisible littéralement, sauf peut-être par le mot « saisir ». Alors, on pourrait dire, hein, relativement à ces deux morales, hein, que l'ancienne morale s'est essoufflée et affaiblie tout simplement parce qu'elle existe depuis plus longtemps que la nouvelle. Supposons par exemple deux coureurs d'égale force, l'un est parti plus tôt que l'autre. Eh bien le second sera à un moment donné plus frais, comme on dit, plus vif que l'autre. Et c'est peut-être les deux positions respectives de Créon et Antigone dans la pièce de Sophocle. Hein. Créon est parti plus tôt, donc il est fatigué plus tôt, et Antigone partie plus tard, finalement, elle va le dépasser. Hein. Mais on voit en tout cas que le mouvement, cette idée de mouvement, est nécessaire à la vie des morales, des cultures, des sociétés, et en réalité, toujours ceux qui se figent meurent. Hein. Une société comme à bicyclette, hein. On ne tombe pas si l'on avance, hein. Mais si l'on n'avance pas, on va tomber, vous voyez. Hein. Donc, cette idée du langage symbolique comme ferment ou vecteur de progression, à mon avis, est une piste importante à retenir. Alors, vous voyez que la pensée symbolique est une pensée complexe, qui n'est pas réductible au principe d'identité, par exemple. Hein. A est A et A n'est pas non A, etc. Hein. Donc, c'est une pensée qui joue souvent sur le paradoxe, sur l'union des opposés, et alors sur cette figure que l'on appelle en rhétorique l'oxymore. Hein. L'oxymore, c'est l'union, justement, de deux réalités logiquement contradictoires. Donc, voyez par exemple une phrase comme Saint Paul, celle que dit Saint Paul, « Notre folie qui est sagesse », c'est une phrase essentiellement paradoxale. Hein. Des formulations comme « la grandeur des petits »,« la force des faibles »,« le bonheur des malheureux » sont des symboles totalement illogiques. Mais ils sont sans doute profonds précisément parce qu'ils sont illogiques, vous voyez. Donc beaucoup de sagesse et de spiritualité se méfient du logos, au double sens de ce mot, langage et raison. Et par exemple, il y a des réponses faites volontairement à côté des questions, ou des réponses apparemment non pertinentes ou sans propos. Par exemple, dans le Zen, qui est la version japonaise du bouddhisme, l'exercice du koan, K-O-A-N, consiste pour le maître à répondre à côté de la question du disciple, pour bien lui faire voir qu'aucune parole ne peut épuiser le mystère du monde. Si le disciple demande « Où est Bouddha ?», il s'attirera comme réponse, par exemple, « Le cyprès est dans la cour hein. ». Et alors, si le disciple comprend la vanité de toute parole, il peut avoir le satori, c'est-à-dire l'illumination. Parler, nommer, c'est limiter les choses, c'est les enclore, hein, c'est les mettre dans des cases. Et la nomination, dit le Tao Te King de Lao Tzu, est source de tous les maux. Un axiome essentiel de Lao Tzu, c'est « celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas ». Donc il faut dénouer les nœuds d'une pensée qui est empêtrée dans la logique du langage. Alors, il me vient à l'esprit la phrase, la strophe de Mallarmé dans Prose pour des esseintes, hein. « Ô sache l'esprit de litige, à cette heure où nous nous taisons, que des lys multiples la tige grandissait trop pour nos raisons. Hein. » C'est-à-dire que le réel excède le logos, la raison. Hein. Ordinairement, nous sommes campés sur des certitudes. Et le langage parle en nous mécaniquement. Nous croyons parler, nous croyons penser personnellement, mais nous ne faisons que répéter des leçons. On pourrait dire que ça parle en nous. Hein. Par exemple, nous parlons par proverbes qui sont, dit-on, la sagesse des nations. Mais songez bien qu'il n'est pas de proposition qui ne soit réversible. Il faut s'amuser à inverser les proverbes et à voir que, comme le dit Gide dans les nourritures terrestres, à chaque raisonnement peut s'en opposer un autre, hein, qu'il ne s'agit que de trouver. Et je m'occupais à le chercher, dit Gide, dans le milieu des grandes routes. Prenez par exemple les proverbes suivants. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Un autre proverbe pourra dire, en l'inversant, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Un proverbe nous dit tel père, tel fils. Mais un autre nous dit à père avare, fils prodigue. Un proverbe nous dit la fortune vient en dormant. Mais un autre nous dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Un proverbe nous dit « tout vient à point à qui c'est attendre », mais un autre nous dit « il faut battre le fer tant qu'il est chaud », vous voyez. Bon, un vers de Lamartine, « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». On croit que la raison est qu'il a raison, hein, bon, que c'est juste. Mais on peut inverser cela et dire, comme le fait Giraudoux dans « La guerre de Troie n'aura pas lieu », un seul être vous manque et tout est repeuplé. C'est-à-dire que l'être aimé n'est plus là, et à ce moment-là, il ne constitue pas un écran, un filtre entre le monde et nous pouvons nous intéresser à tout le monde, y compris à tous les êtres que nous voyons passer dans la rue, hein, et auxquels nous pouvons à nouveau, justement, accorder de l'intérêt, vous voyez, hein. Donc voilà. Alors, le monde intellectuel tout entier contient tout et donne des exemples de tout. Il donne le vertige car on s'aperçoit très vite qu'il n'y a de vérité que de circonstances, hein. Quand Jésus dit à Pilate « qu'est-ce que la vérité ?» dans l'évangile de Jean, je crois, hein, eh bien, Pilate répond... Quand Jésus dit à Pilate « je suis la vérité », vous voyez, lapsus révélateur, Pilate répond, qu'est-ce que la vérité? Ti esti aletheia, vous voyez. En fait, je pense qu'il vaudrait mieux parler de validité des propositions, des assertions, beaucoup plus que de vérité, vous voyez. Par exemple, pour prendre l'opposition entre un seul être vous manque et tout est dépeuplé, et un seul être vous manque et tout est repeuplé, il faudrait dire que tout dépend de l'intensité de l'amour que l'on éprouve, hein. L'éloignement et l'absence éteignent les petites passions et attisent, augmentent les grandes. Exactement comme un grand vent peut éteindre une petite bougie, souffler la bougie et attiser un grand feu. Donc ce qui compte, c'est de voir la validité de telle affirmation dans tel ou tel contexte. Il faut les contextualiser. Il n'y a de vérité que de contexte, de circonstances. Où est la plus grande logique, alors, dans cette profusion contradictoire prétendant à la vérité, ou bien dans l'inversion résolue que font beaucoup de textes symboliques des modes habituels de pensée, dans la subversion systématique des mécanismes mentaux? Alors vous voyez que contre l'hypertrophie de la parole et de la logique, hein, je rappelle que logos signifie les deux choses en grec, le silence, alors peut-être le recours, et c'est souvent la voix des orientaux et des mystiques, hein. Mystique, ça veut dire qui ferme sa bouche pour ne pas parler, muein, hein. Comme myope, c'est qui cligne les yeux pour mieux voir, hein. C'est ça le mot muein en grec, hein. Donc le mysticisme existe en Occident, il est presque l'Orient de l'Occident, pourrait-on dire. Mais je crois que le symbole le plus éclatant de cette nouvelle attitude, plutôt que le silence, parce que sinon je me contenterai de rompre la parole ici, de m'arrêter de parler, hein, vous voyez, hein, bon, si je dis celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas, alors pourquoi continuer de parler à ce micro, vous voyez, bon. Alors, plus que le silence, j'insisterai sur le paradoxe, hein. Alors, en rhétorique, je répète, l'oxymore, c'est une qualification ou une caractérisation paradoxale, où le qualifiant semble contredire le qualifié, par exemple clair-obscur, hein, ou bien soleil-noir, etc. Bon, tout le monde connaît le vers de Corneille, cette obscure clarté qui tombe des étoiles, ou encore celui de Nerval, porte le soleil noir de la mélancolie. Alors là, ce sont des oxymores de perception, hein, qui proviennent d'une observation des choses plus sensibles et attentives que leur considération habituelle, qui est sommaire, paresseuse. malgré sa prétendue logique. Ainsi Camus peut-il dire finement dans L'étranger que la campagne méditerranéenne, à de certains moments, est noire de soleil, c'est-à-dire que le soleil est tellement aveuglant qu'on a l'impression d'une obscurité. Mais enfin, plus important pour comprendre le langage symbolique, sont les oxymores de pensée, où des notions ou des sentiments contradictoires sont unis. Par exemple, l'expression de haine amoureuse, hein, ou d'amour haineux, ou de joie douloureuse, ou de douleur joyeuse, etc. L'oxymore introduit à une réalité fondamentale de la vie, qui est indiquée la plupart du temps par les symboles, et non pas par les raisonnements. Hein. Nous sommes toujours dans le langage, dans l'étude du langage symbolique. Hein. Alors, l'oxymore introduit à la notion d'ambivalence et à la fameuse union des opposés, ce qu'on appelle la coincidentia oppositorum, sur laquelle Jung a longtemps réfléchi, hein, l'union des opposés. Prenez par exemple le vers de Baudelaire dans Recueillement, « Surgir du fond des eaux le regret souriant ». Eh bien, ce regret souriant, qui est oxymorique, c'est une impossibilité logique. On a beau essayer de le rationaliser, de le justifier ou de l'expliquer, on a beau faire, ce n'est pas un regret précédé ou suivi d'un sourire. Non, ce regret lui-même est souriant. Et la formulation contradictoire définit elle-même un certain état, qu'il est sans doute plus facile d'éprouver que de faire comprendre. C'est ce fameux sombre plaisir d'un cœur mélancolique dont parlait La Fontaine, hein, le charme secret que peut avoir la nostalgie et l'échec dans nos vies, la victoire du possible sur le réel, du rêvé sur l'acquis. Le regret s'accompagne toujours de rêves, et l'imagination de ce que l'on n'a pas fait a plus de charme ou d'aura, A-U-R-E-A, pour l'esprit, que la considération de ce que l'on a fait, vous voyez. Par exemple, le dimanche soir, si rien ne s'est produit dans la journée, je ferme mes volets et je me dis, ben voilà, je suis un peu triste, d'accord, j'aurais pu connaître quelque chose, mais rien n'est arrivé, hein. Mais après tout, cet état n'est pas sans charme, parce que si je n'obtiens pas ce que je désire, bien sûr, je serai frustré, mais si je l'obtiens, si je l'avais obtenu, j'aurais peut-être été déçu. Donc, cette impression de regret souriant parle beaucoup à des esprits idéalistes, hein. Bien sûr, les réalistes peuvent ne pas le sentir, ils le comprendront intellectuellement, mais ils ne le sentiront pas. Mais si je sens au fond de moi-même, et certains le sentent très fort, hein, que l'échec même peut être une réussite, parce que la réussite, c'est l'annulation de tous les possibles rêvés, en quelque sorte, hein, eh bien, je m'aperçois de quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que les gens habituellement croient. Ainsi, je peux toujours pleurer de joie ou souffrir de mon propre bonheur. Hein. Pourquoi une belle musique entendue ou un beau spectacle vu, un beau tableau contemplé? Pourquoi nous émeuve-t-il jusqu'aux larmes? Hein. Eh bien, c'est parce que ces états sont mêlés. Il y a la joie et aussi le sentiment d'un excès de cette joie. La vraie beauté est accablante, hein, et la perfection nous condamne irrémissiblement. La beauté, disait André Breton, est une catastrophe, hein. Alors, la plupart du temps même, on cherche à fuir la beauté. Un beau visage suscite en nous un séisme, une commotion qui, finalement, n'a rien d'agréable. C'est un arrachement à la banalité. Alors pourquoi le beau visage nous fait peur, hein, la beauté est terrifiante? Parce qu'on sent qu'on ne sera pas toujours à ce niveau et que l'instant d'après, ce transport hors de nous-mêmes cessera. Nous serons rendus à la banalité des instants quotidiens. Alors nous nous verrons tels que nous sommes et nous pleurerons. Qu'est-ce que c'est ? Nous pleurons sur nous-mêmes. Pleurer, c'est se prendre en pitié soi-même, vous voyez ? Donc là, j'essaie d'analyser un domaine complexe, difficile à percevoir logiquement, parce que les gens identifient par exemple le beau à l'agréable, et beau ce qui plaît, ça me semble problématique, non, et beau ce qui nous déracine, ce qui nous déchire, hein, et qui n'a rien à voir avec la pauvre banalité de nos journées. Alors si l'on médite sur de tels exemples, on comprendra la vérité profonde d'une parole oxymorique comme celle du serment sur la montagne, heureux ceux qui pleurent, si on la prend hors contexte, hein, parce que le contexte dit heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, hein, voyez. Et aussi on comprendra qu'un échec peut être une réussite. Par exemple, pour certains chrétiens, la croix, qui est l'image objective d'un échec, qui pour un voltairien est un défi à la raison et une insulte à l'intelligence, montre au contraire l'étendue de la kénose de Jésus, c'est-à-dire il s'est vidé, il s'est abaissé justement jusqu'à prendre figure humaine et figure d'un supplicié. Donc, quand Baudelaire nous dit dans Bénédiction « Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés », cette phrase est totalement incompréhensible logiquement, incompréhensible, hein. Mais peut-être a-t-elle une valeur, beaucoup plus profonde. Je n'en sais rien. Je pense que je vais arrêter ma réflexion sur ce point-là. Hein. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce dolorisme. Bien sûr, il y a des dangers dans le dolorisme, hein. Mais je crois qu'il faut laisser les choses ouvertes et que, selon l'expression de Flaubert, il y a une ineptie de vouloir conclure, Quand j'avais des étudiants qui ne terminaient pas leur dissertation, ils me rappelaient justement cette phrase en me disant « Monsieur Flaubert a dit l'ineptie de vouloir conclure, donc je n'ai pas conclu ». Pour l'instant, je conclus l'émission, hein, même si il y a quelque chose d'inadmissible dans cette formule. Et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer l'examen de ces catégories de la du langage symbolique. Au revoir à tous, à bientôt.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.